invité de la rédaction. Valérie Vial.
Le dimanche 5 septembre a été inaugurée à Haguenau une œuvre de l'artiste Ed Vasser, à la mémoire de Philippe Créange, intitulée « L'arbre de la paix ». Pour nous en parler, Nathalie Ross, présidente des Cigognes, qui a succédé à son père en 2015.
Papa aurait dit tout simplement, avec l'humilité et la réserve qui le caractérisait, « Merci à tous d'être venus si nombreux et de témoigner ainsi de l'intérêt que vous portez à notre association ». C'est comme ça d'ailleurs qu'il avait commencé son discours le 8 mars 2020 à la fête de Pourim des Cigognes. Moi, j'y ajouterai, en y associant maman et mes sœurs, que votre présence, si nombreuse et si chaleureuse, nous touche profondément. Papa a été président des Cigognes depuis 1974, puis président d'honneur depuis 2015, date à laquelle il m'avait demandé de prendre sa suite. Car il ne voulait pas mourir président. C'était emblématique de son sens, de la responsabilité et de sa volonté de transmettre. Avant de dire quelques mots sur lui, permettez-moi de vous résumer l'histoire des Cigognes, qui, comme le précisent nos statuts, portent aide et assistance à toute personne de confession israélite, en particulier aux enfants, en difficulté familiale, médicale ou encore économique, depuis près de 170 ans. L'institution a en effet été créée ici à Haguenau en 1852. Elle avait initialement pour objet l'accueil et l'hébergement des malades et des vieillards indigents de la communauté, ici à Haguenau. Mais dès 1904, elle a étendu son action par la création d'un orphelinat, de garçons d'abord, puis mixte après la Deuxième Guerre mondiale. Les Cigognes ont ainsi accueilli les enfants en péril à travers les générations. Je rencontre régulièrement des amis qui me disent « Mon père était aux Cigognes, mon oncle était aux Cigognes, mon grand-père était aux Cigognes ». Au départ, donc, des orphelins. Les orphelins de la Première Guerre mondiale, les enfants juifs fuyant les pogroms de l'Est dans les années 20, les victimes du nazisme dans les années 30, puis les orphelins de la Seconde Guerre mondiale. Progressivement, il ne s'agit plus d'orphelins, le rabbin dirait Dieu merci, mais d'enfants en difficulté qui sont placés par les services sociaux départementaux et le ministère de la Justice. La maison des Cigognes est alors la seule maison juive de France, dans laquelle les enfants reçoivent une éducation religieuse, mangent kasher et célèbrent les fêtes juives, tout en allant à l'école publique. Ce qui explique, par exemple, Vincent, notre député ici à Haguenau, qu'il a eu des copains juifs, comme évidemment mes sœurs et moi, parce qu'on les a fréquentés à l'école. Cette période est marquée par le couple Louisada, qui prend la direction de la maison en 1971 et y accueille de plus en plus d'enfants. Leur travail extraordinaire permet à bon nombre d'entre eux de s'épanouir dans leur nouvelle vie. À la retraite, fin 1997, et vivant depuis en Israël, monsieur et madame Louisada, avec l'aide de Lina, qui a vécu, elle aussi, aux Cigognes, de l'âge de 3 ans à l'âge de 18 ans, continue à suivre des anciens de la maison afin de leur apporter notre aide. En 2002, les services sociaux ayant considérablement revu les recommandations sur la façon d'accompagner les enfants en difficulté, plutôt en milieu ouvert et non pas dans un internat, papa a en effet décidé de fermer l'établissement, la maison des Cigognes, et de redéployer ses actions avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous, et notamment celles du judaïsme. C'est ainsi qu'en 2004, il conclut un premier partenariat avec Madame Elbez pour lui permettre d'ouvrir à Strasbourg le Relégie Enfants, qui accueille aujourd'hui 25 à 30 enfants après l'école. Au Relégie, ces enfants en difficulté trouvent un accompagnement scolaire, des activités encadrées et l'écoute, le dialogue qui leur sont si nécessaires. En 2006, papa s'associe à un groupe de Français vivant en Israël, des entrepreneurs comme lui, notamment Claude Meyer, le papa d'Anouf, pour ouvrir la première maison de l'espérance de l'association Negba. Les Cigognes, elle s'appelait comme ça, dans un quartier défavorisé de Beersheva, aux portes du désert. Negba, dont les méthodes d'accompagnement des enfants et adolescents, je salue Rana Geisman qui nous suit en Zoom depuis Israël, cette association aujourd'hui Negba, avec des méthodes reconnues par tous en Israël pour accompagner les enfants, accueille maintenant près de 250 enfants. Les besoins évoluent sans cesse. Et c'est ainsi que, face aux nouvelles difficultés de décrochage scolaire créées par la crise Covid, qui a encore renforcé les inégalités, nous avons créé à Strasbourg, à la rentrée 2020, l'école des Cigognes Philippe Créange, en partenariat avec l'Action sociale juive et la société d'études Tableau d'honneur. C'est un programme de soutien scolaire personnalisé qui accompagne des collégiens et des lycéens et que nous sommes déjà en train de déployer dans d'autres villes de France. Comme vous le comprenez, l'action des Cigognes n'a jamais été aussi intense. N'appartenant à aucune organisation, notre indépendance nous permet d'être, et c'est le plus important, à l'écoute des besoins et d'y répondre avec flexibilité et rapidité. Nous souhaitons conserver les principes qui nous habitent depuis si longtemps, c'est-à-dire continuer à agir à 100% bénévolement afin que tous les dons reçus aillent directement à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux enfants.
L'artiste internationale Edva Serre, ambassadrice de bonne volonté pour l'UNESCO, nous parle de sa sculpture en bronze.
Comme les anciens oliviers qui l'évoquent, l'arbre de la paix a grandi au fil des ans, revêtant ainsi une nouvelle signification. Créer cette sculpture au service de la paix fut pour moi comme une évidence. J'ai utilisé la forme de l'arbre, son tronc et ses branches pour refléter l'équilibre et la compréhension entre les peuples et les nations. Ces rameaux de bronze s'animent et prennent tour à tour la forme du rail, qui dans la Bible signifie la vie, du croissant de lune de l'islam, et du shin, la première lettre du mot hébreu shalom et le mot arabe salam. Il illustre ainsi les trois religions et les dialogues interfaces interculturels. En tant qu'artiste, les langages que j'utilise sont le bronze. Ma philosophie est que l'art est un outil pour la paix. Travailler pour construire un monde meilleur, mon art a toujours été une motivation importante. Et ma sculpture, l'arbre de la paix, est un symbole représentant cet objectif. En touchant ces sculptures en bronze, nous pouvons sentir les poids de l'histoire et façonner l'avenir. La sculpture est un symbole d'abri, un lieu de rassemblement, offrant une ombre accueillante face à la menace incessante des conflits qui fragilisent notre monde aujourd'hui. À mes yeux, une nouvelle vision de la paix peut s'enraciner ici pour transmettre le concept de paix sur des routes qui atteindront les villes, les villages, les universités, les parcs, où tous et toutes peuvent se réunir et échanger sur leur espoir de paix.
Le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Harold Avraham Weil, parle de l'aspect spirituel de cette inauguration juste avant Rosh Hashanah et d'évoquer ainsi la mémoire de Philippe Créange.
Il y a une dimension universelle aujourd'hui. Et vous savez, dans notre tradition, on dit que les dates ne sont jamais choisies par hasard. Ce n'est pas la date qui avait été choisie en premier lieu pour honorer à la fois la mémoire de M. Philippe Créange, Zichrono Livracha, mais également célébrer les 200 ans de la communauté d'Agno, de la synagogue d'Agno. Et on va voir que ces deux événements sont en réalité intrinsèquement liés, mais un certain nombre de circonstances, notamment les circonstances sanitaires, nous ont obligés à déplacer cette date et à se rassembler à la veille de Rosh Hashanah. Et il y a une dimension universelle incroyable, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, Rosh Hashanah n'est pas le nouvel an juif. Rosh Hashanah, c'est le jour où l'humanité tout entière, dans notre tradition, doit rendre des comptes. Où l'humanité tout entière prend conscience du potentiel qui est le sien. Et vous le voyez, ça dépasse très largement le cadre de la communauté juive. Nous recevons un potentiel à notre naissance. D'ailleurs, je le rappelle, la journée de Rosh Hashanah ne célèbre pas l'anniversaire du monde, mais l'anniversaire de l'homme. C'est l'homme qui, ce jour-là, prend conscience du rôle qui est le sien dans ce monde dans lequel il a la chance d'évoluer, qu'il doit prendre comme un défi. Et je crois que ça a été la vision de notre ami Philippe Créange, pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont bien connu, malgré les difficultés de la vie qui ne l'ont pas épargné, qui n'ont pas épargné son frère, avec la perte tragique de son papa, alors qu'il était un enfant, presque un bébé encore, les affres de la guerre, bien sûr, et arriver à se reconstruire après la guerre, après de telles épreuves, alors qu'on aurait pu bien décider de jeter l'éponge, de se laisser aller, non, décider de prendre la vie du bon côté, de comprendre que ce potentiel, on n'a pas le droit de le gaspiller. On doit au contraire être capable de le rentabiliser, on doit le sublimer pour faire en sorte d'affronter les épreuves de la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a construit plus qu'une famille magnifique. Il a construit une grande famille, bien au-delà des siens. Il a eu de très très nombreux enfants. Il a eu bien sûr trois filles magnifiques qu'il adorait, des petits-enfants extraordinaires, une arrière-petite-fille qui était tout pour lui. Mais bien au-delà de sa famille proche, il a eu des centaines, voire des milliers d'enfants, puisque tous ces enfants dont il s'est occupé, eh bien, ont pu à leur tour construire des familles, avoir des enfants, peut-être même des petits-enfants.
Claude Stourny, maire de Haguenau, à propos de l'histoire de la communauté juive avec la ville de Haguenau.
Haguenau a une longue histoire commune avec la communauté juive. Si l'on excepte en effet deux périodes sombres de notre histoire, celle de la peste noire au XIVe siècle et celle de la barbarie nazie au XXe siècle, la communauté juive a toujours été présente à Haguenau, et cela pratiquement depuis la fondation de notre ville en 1115, partageant ainsi avec elle une communauté de destin. Elle a toujours joué une part active dans le développement de notre ville, que ce soit d'un point de vue économique, culturel et social. Et compte tenu de ces liens historiques qui, depuis 8 siècles, unissent la communauté à la ville, nous avons souhaité participer à la commémoration des 200 ans de la synagogue de Haguenau, la quatrième dans l'histoire de la ville, dont l'inauguration date du 9 août 1821. Aujourd'hui, même si la communauté israélite, il faut bien le reconnaître, est très restreinte, il est essentiel pour notre ville de commémorer cette date. Oui, il est essentiel qu'une ville ait une politique mémorielle et patrimoniale envers les communautés religieuses. Nos églises, nos temples, nos synagogues et les très nombreux lieux de culte sont des éléments incontournables de notre patrimoine historique. Haguenau, ils ont façonné l'urbanisme même de notre ville. Et ils constituent en tout cas, au même titre que les châteaux, châteaux forts, en Alsace du Nord on en connaît beaucoup, au même titre que les ouvrages d'art, les œuvres artistiques, de manière générale, ils constituent donc un patrimoine historique. Leur protection et leur conservation font la richesse de notre culture et rendent la France si attrayante. Vous me permettrez de citer, non pas un Français, mais un Britannique, Winston Churchill, qui disait « Un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir ». Il est fondamental d'aider ces associations culturelles, et j'assume avec fierté ce devoir avec les élus de Haguenau.
Le Quatuor Ethos, dirigé par Rémi Studer, et au chant Florence Feltz et Lucille Gianchini.
Thank you. l'invité de la rédaction.